qui se passe là-bas?
J'ai tout consigné par écrit. Je vais vous donner les chiffres, d'accord? Bon, comme vous le savez, nous avons pris le secteur à Joe Saltis à la fin du mois d'octobre dernier. Et tout de suite, les choses ont pris une autre tournure. Prenons un exemple. Commençons par la bière. Pour les 30 jours précédant le 15 décembre, les ventes ont augmenté de 21%.
À propos, quelle nouvelle du secteur nord, Jack? J'entends pas souvent parler d'affaires brillantes par là. À moins que tu penses que le secteur nord vaut pas la peine qu'on s'y intéresse.
He comes along just
il entre en scène au moment où la prohibition s'installe dans le pays. Et il est l'homme de la situation, au bon moment et au bon endroit. 10 ans plus tard, le même homme, avec les mêmes compétences, les mêmes aptitudes, n'aurait jamais eu la trajectoire qu'il a eue. Il n'aurait jamais fait la une de Time Magazine.
Al Capone, roi des gangsters. Une grande traversée de Federico Polo Devoto et Marie-Laure Ciboulet. Épisode 2, premier pas dans le crime. Dans le dernier épisode, nous avons laissé Al Capone à Chicago, au sommet de son pouvoir. Véritable maître de la ville, sur place, rien ne se passe sans sa bénédiction. Homme d'affaires redoutable et redouté, Capone est à la tête d'une organisation criminelle d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars qu'il dirige comme une grande multinationale, avec un conseil d'administration d'un genre un peu particulier. Mais comme Al n'est pas avare de surprises, nous l'avons aussi découvert en bon père de famille, un homme généreux avec le cœur sur la main, et en vedette dont la vie mondaine est abondamment relayée par la presse. En résumé, Al est au sommet. Il a été couronné roi des gangsters à Chicago. Mais nous allons rembobiner le fil de sa vie et repartir depuis le début, à New York, là où tout a commencé.
There's a lot of misconceptions about Al Capone.
Wayne Johnson, ancien chef de la division du crime organisé de la police de Chicago.
Il y a beaucoup d'idées fausses au sujet d'Al Capone, à commencer par sa naissance à Brooklyn de deux parents immigrés originaires de Naples, en Italie, qui étaient des gens tout à fait honnêtes. Son père était barbier. Il n'avait aucune activité illicite, rien. Sa mère non plus. Il venait d'une famille nombreuse. Je crois qu'il était le quatrième fils.
Al Capone was the fourth of nine children.
Arthur Lurigio, psychologue et professeur de criminologie.
He lived in the Navy yards of
Al Capone était le quatrième d'une fratrie de 9 enfants.
His father was a
Il vivait près des quartiers navals de Brooklyn, un quartier vraiment très défavorisé. Italians. Son père était barbier, ce qui à l'époque était une profession particulièrement bien vue chez les Italiens. Il était aussi, peut-être en raison d'une grande intelligence, une sorte de traducteur. Les gens du quartier lui apportaient des lettres en anglais et des documents qu'ils avaient besoin de signer, qui étaient peut-être en rapport avec leur statut d'immigré, et Gabriel Capone les traduisait. Sa mère était couturière. Elle s'occupait de la maison, de ses nombreux enfants. L'un d'entre eux est mort d'une maladie. 1 sur 9, c'est un ratio assez faible. D'habitude, c'était plus que ça. L'éducation d'Al Capone ressemble à celle de n'importe quel autre Italien du sud pauvre du début du XXe siècle, dans les taudis surpeuplés des enclaves italiennes de la ville. Et puis son père s'est fait suffisamment d'argent avec ses activités de barbier et de traducteur pour quitter le quartier des chantiers navals et déménager dans le quartier de Park Sloane à Brooklyn, plus riche et avec des immeubles en meilleur état. Ce changement de décor a une importance capitale dans la vie de Capone, car plusieurs ethnies différentes se partageaient ce quartier. Et il côtoyait donc des Américains d'origine irlandaise, allemande et même asiatique, alors que dans le quartier des chantiers navals, c'était 100% italien. Et il avait des interactions avec des gamins d'autres groupes ethniques. Ce qui a peut-être exercé une influence plus tard à Chicago sur sa manière de recruter et de diriger son organisation.
Lawrence Berggren, historien, biographe d'Al Capone.
C'est une enfance typique d'immigrés à New York. Quand je dis immigré, c'est qu'il est né ici en 1899. Mais ses parents, eux, sont nés en Italie. Ils ont été confrontés à beaucoup de discrimination, de préjugés anti-italiens et anti-migrants ici à New York. Ils étaient venus ici en terre promise, comme bien d'autres, pour s'échapper et accéder à un meilleur niveau de vie que celui qu'ils avaient en Italie. Mais en fait, ici, ils ont trouvé un environnement très, très difficile.
Il n'a jamais été facile de venir dans ce pays en tant qu'immigrant. L'Amérique est une terre d'opportunités, mais aussi de concurrence et de choix difficiles.
Extrait de film du Mob Museum à Las Vegas.
D'énormes vagues d'immigrants ont débarqué sur nos côtes à la fin des années 1800 et au début des années 1900. La plupart ont fait confiance au système, à la police, aux tribunaux, à leur travail, et petit à petit sont sortis du ghetto. Quelques-uns, cependant, ont cru pouvoir prendre un raccourci vers le rêve américain.
Il y a une dizaine de millions d'Italo-Américains qui débarquent aux États-Unis entre 1850 et on va dire 1930. Et ils proviennent essentiellement de l'Italie du Sud.
Fabrice Risoli, spécialiste de la grande criminalité et des mafias.
Il faut comprendre que lorsqu'ils arrivent, c'est l'enfer sur Terre. C'est pas l'American Dream. Hein, avec l'accent. La pauvreté est extrême, aucun accueil est prévu, il n'y a pas de service public pour eux, et je rappelle la barrière de la langue, ils arrivent dans un pays où ils ne parlent pas la langue et où une immigration plus ancienne qu'elle, les Irlandais, qui étaient certes victimes de racisme parce qu'ils étaient catholiques, mais enfin malgré tout ils vont parler l'anglais, ils vont plus facilement avoir un logement, rentrer dans la police, et donc ils vont subir, les Italiens, à la fois le racisme des WASP, mais à la fois le racisme des Irlandais, qui sont beaucoup dans la police. Donc ils sont ostracisés. Il n'y a pas de possibilité de prêt bancaire. Moi je veux bien, mais qu'on dise que les pauvres, c'est un peu de leur faute s'ils volent. Mais enfin, essayez de monter une entreprise quand vous n'avez pas accès au crédit. Évidemment, la difficulté de trouver un travail ou de ne pas être exploité dans son travail. Parce qu'effectivement, on va vous demander de construire, de mettre le goudron, mais parfois on ne va pas vous payer. La difficulté d'avoir un logement. À New York, les familles dorment dans la cuisine l'hiver, parce que c'est le seul endroit où il y a le four avec le charbon pour pouvoir se chauffer. Je vous dis pas l'odeur, les problèmes de santé. L'été, les familles dorment sur les toits. Ou dans les escaliers, les fameux escaliers qui sont dehors. Hein, on a tous l'imaginaire collectif de New York, même quand on n'a pas été, grâce au film. Donc les rats et les cafards sont les principaux habitants de la ville. À l'intérieur de ça, dans cette diaspora, des gens qui parlent un petit peu la langue, qui sont arrivés plus tôt que ces gens encore, vont servir d'intermédiaire pour trouver un logement, un travail, etc. Et finalement, ça va recréer la féodalité que connaissaient ces Italiens qui venaient de l'Italie du Sud. Féodalité de type marchand de sommeil, qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui existe encore avec les sans-papiers en France. Et puis, des gens qui vont basculer dans le crime.
En 1890, le chef de la police de la Nouvelle-Orléans est tombé dans une embuscade. Personne n'a jamais pu prouver qui l'avait tué, mais on murmurait le mot « mafia ». Les immigrés italiens de Crescent City devaient se méfier, car les partis anti-immigrés faisaient la loi. Certains Italiens ont apporté avec eux une société criminelle secrète qui remontait à plusieurs générations en Sicile. Mais le crime organisé n'était pas uniquement italien. New York a une longue histoire de guerre de gangs. Il y avait des gangs irlandais, des gangs juifs, tous entassés dans les bidonvilles.
La misère, le rêve américain qui fonctionne pas toujours pour tout le monde, fait que on va développer des activités. Alors parfois c'est pas forcément de l'illégalité vécue comme ça, c'est de la contrebande, c'est du marché noir, c'est de la débrouille.
Clotilde Champerrache, économiste et spécialiste de la mafia et de l'économie illicite.
Mais de la débrouille qui ne respecte pas la loi. Et puis, parmi ceux qui sont les plus habiles, on va commencer à s'organiser, créer ces gangs. Mais vous avez les gangs irlandais, les gangs allemands, les gangs juifs. Donc, il y a plein de criminels sur le territoire américain. Et puis, on a aussi des criminels américains d'origine, enfin qui sont déjà installés sur place lorsque ces flux migratoires arrivent.
Et là, on va avoir, avec des gangs, hein, le fameux gang des les Five Points, par exemple, on va avoir toute une organisation basée alors, sur des activités de type criminel, le vol, d'abord, hein, parce que quand on n'a rien, on vole. La prostitution, parce qu'il faut voir qu'un grand nombre d'hommes arrivent ici au départ sans leurs épouses, et tout. Pas tous, hein, il y a aussi des familles. Le jeu, c'est-à-dire que même quand les gens travaillent, on va se débrouiller pour organiser un petit peu de jeux de dés dans la rue ou autre, hein, je parle au tout début, et on va essayer de dépouiller les gens. C'est-à-dire à peine ils gagnent quelque chose, on va les dépouiller.
Vous
savez, il y a cette histoire qu'on raconte.
Brad Schwartz, historien et auteur d'un ouvrage consacré à Al Capone et Elliot Ness.
Quand Capone avait 7 ou 8 ans et qu'il vivait pas loin de chez John Torrio, l'association John Torrio, c'était le nom de ce business à Brooklyn. Et donc, il observait ce parrain du quartier et cette vie dont il rêvait. Son père, dans l'espoir de le mettre sur le droit chemin, je pense, lui a alors procuré une boîte à cirage. Et donc, il se baladait et cirait les chaussures. Et Capone, en observant comment se comportaient les gangsters du coin et ce qu'ils faisaient, décide de mettre en place son propre système de raquettes de protection. Et il se met ainsi à extorquer de l'argent à tous les autres petits cireurs de chaussures. Et son business prend tellement d'ampleur que les gens de Torrio doivent intervenir et y mettre un terme, car Capone est trop jeune pour jouer à ça. Mais cela montre bien qu'il avait des penchants. Car quand il a eu cette possibilité de se faire un peu d'argent de manière honnête, lui y a vu une opportunité de gagner plus d'argent de manière malhonnête.
À New York, il a le destin de beaucoup de jeunes italiens.
Jean-François Guéraud, commissaire général de la police nationale, spécialiste du crime organisé.
Il va vivre immergé dans l'une des données sociales les plus importantes de la vie de New York au 19e siècle, même si on ne veut pas vraiment l'entendre aujourd'hui, ce sont les gangs.
C'est qui les gangs maintenant ?
Alors il y a les matinaux et les anges du matin.
Les gangs vont être un mode de structuration de la vie sociale et politique extrêmement important.
De Bloody Angle, les débraillés, avant c'était des brutes, maintenant c'est les dandys de la rapine. Il y a les cabochards, ils débarquent du fin fond de leur
campus. Ça a été très bien décrit par un grand historien américain qui s'appelle Ashbury, qui a écrit un grand livre, Gangs of New York.
Il y a les arpenteuses de Rat Pickers Row. Elle bosse allongée
et
sur
qui a été porté au cinéma de manière géniale par Scorsese.
Le gang des abattoirs et les cyclones de Broadway, des soifards de la plus belle espèce. Et
puis, j'insiste sur ce point parce qu'il faut comprendre que les gangs, le crime organisé, est un élément constitutif de la création en fait, de l'Amérique. Les Américains n'aiment pas l'entendre, mais c'est un élément très fort. Bon, ceci pour dire que Capone va être attiré par ces gangs. Il va en particulier intégrer un gang qui est passé la postérité, c'est le Five Points Gang, alors nom très, très bizarre, qui est en fait une référence topographique à Manhattan, aux rues de Mob Street et Mulberry Street. En fait, c'était le lieu où convergeaient donc un certain nombre de rues. C'est un gang qui va être dirigé par un Italien qui va américaniser son nom, le fameux Paul Kelly, de son vrai nom Vaccarelli. Et ce gang va avoir une position dominante à Manhattan. Il va être très impliqué dans le racket, le jeu, la prostitution. Et il va servir un petit peu de couveuse, on dirait aujourd'hui de start-up, à tout un tas de gangsters italiens. Donc évidemment Al Capone. Et puis l'adjoint de Vaccarelli, c'est Johnny Torrio.
Al Capone was always...
Al Capone, il a toujours été grand et costaud, même quand il était enfant. Et il y a une histoire à propos d'autres enfants qui avaient un gang et qui allaient se battre dans le quartier voisin avec une bande d'Irlandais qui les terrorisait. Et l'histoire veut que le jeune Al Capone ait été leur mascotte. Il portait une bassine autour de la poitrine et il tapait avec une cuillère ou quelque chose comme ça pour faire du bruit et annoncer qu'ils arrivaient. Et puis les grands ont organisé un combat et écrasé leurs rivaux irlandais. Et d'une certaine manière, cela a marqué l'entrée de Capone dans la vie criminelle. Et c'est aussi typique de l'homme qu'il deviendra. Parce qu'il ne s'agit pas tant d'être efficace que d'être bruyant et visible. Et vous savez, il aimait l'adulation, il aimait être célèbre.
Al Capone a arrêté l'école en sixième. Il a frappé une professeure, ce qui montre bien un trait de caractère qui a perduré tout au long de sa vie et qui fait partie du profil d'un psychopathe. Il avait peu de contrôle sur ses impulsions quand il s'agissait de violence. Et lorsque cette professeure l'a insulté, probablement une insulte à caractère raciste sur son origine italienne, eh bien, il l'a frappé. Mais contrairement à ce qui a parfois été dit, il n'a pas été renvoyé. C'est lui qui a quitté l'école après cela, en sixième année. et qui a commencé à occuper différents petits boulots. Il travaillait dans un bowling, dans un magasin de bonbons, dans une librairie. Il a même été joueur de baseball à un niveau semi-professionnel.
Il semblerait que l'endroit où il a choisi sa profession et sa vie future, c'est à Harvard. Pas l'université, mais l'établissement, le Harvard Inn, un lieu dirigé par un de ses mentors connu sous le nom de Frankie Yale. Et c'est là que Capone travaillait comme videur et barman. Et qu'un soir, il a mal parlé à une jeune femme dont le frère s'est offusqué.
Il a tenté une approche obscène sur une jeune femme qui était assise là avec son frère. Al Capone avait fait ses classes. Il était passé des gangs de rue au groupe de criminels italiens qui travaillaient pour Frankie Yale. Le physique d'Al Capone, 1m83 pour 110 kilos. Donc, il s'est approché d'une jeune femme assise à une table. Elle s'appelait Lena. Et il a tenté à plusieurs reprises de l'approcher. Et à la troisième tentative, il a fait une remarque sur son postérieur. Le frère de Lena a entendu ce commentaire et a commencé à se battre avec Al Capone. C'est cet homme qui a balafré Capone et il s'appelait Frank Galluccio. Frank Galluccio était déjà membre d'une famille du crime organisé, probablement l'ancêtre de la famille criminelle de Vito Genovese. Donc il a sorti un couteau et s'est jeté sur Al Capone qui faisait au moins 10 cm de plus et pesait une vingtaine de kilos de plus. Mais ça n'a pas dissuadé Frank Galluccio qui, en tentant de couper la jugulaire d'Al Capone, lui a balafré le visage. Al Capone a dû être emmené à l'hôpital et pendant ce temps, Frank Galluccio a fui le Harvard Inn avant d'aller voir le boss, le patron mafieux local qui s'appelait Masseria. Il lui a raconté ce qui s'était passé et Masseria a organisé une réunion avec Al Capone et Frank Galluccio. Al a reconnu qu'il avait dépassé les bornes, qu'il avait manqué de respect à la famille de Frank Galluccio. Il a admis qu'il s'était comporté de manière inappropriée. Frank Galluccio, de son côté, a admis qu'il avait réagi de manière excessive. Le boss Masseria a dit « affaire classée ». Il n'y a pas eu de représailles pour la balafre. Et quand, bien des années plus tard, Capone revenait à New York pour affaires, Frank Galluccio était l'un de ses gardes du corps, ce qui veut bien dire qu'ils avaient fait la paix.
Brad Schwartz, avant de quitter New York pour aller vivre à Chicago, Al Capone rencontre celle qui deviendra son épouse, May. Que sait-on d'elle ?
On pense qu'Al a rencontré sa future femme dans l'usine d'emballage où ils travaillaient tous les deux à Brooklyn. C'est l'un des boulots légaux que Capone a eu. Sa femme était employée de bureau. Elle avait environ 2 ans de plus que lui. Vous savez, à l'époque, il y avait des conflits entre les gangs des quartiers irlandais et italiens. May Coughlin, c'est son nom de jeune fille, venait d'un quartier irlandais. Il s'agissait d'une rencontre inhabituelle, par bien des aspects. La mère de May n'était pas enchantée de rencontrer son futur gendre. Mais surtout, ce type de relation, ça ne se faisait pas. On n'aimait pas beaucoup ça. Mais c'était la partenaire idéale pour lui, en particulier dans les premiers temps. Ils avaient le même goût pour la vie nocturne. Elle adorait danser, elle adorait sortir dans des clubs où ils passaient leurs soirées. Ainsi, même si elle venait d'un environnement culturel où on demandait aux femmes de rester à la maison et de s'occuper de la cuisine, elle, ce qu'elle voulait, c'était mener une vie différente. Et elle l'a eu. Elle a eu une vie très différente de tout ce qu'elle aurait pu imaginer.
Maya Capone is an interesting woman.
Richard Lindbergh, historien spécialiste du crime organisé à Chicago.
She married Capone.
May Capone est une femme très intéressante. Elle a épousé Capone en 1918. Elle venait d'une famille irlandaise de Brooklyn et de la vie générale. Ils ont eu un mariage heureux. Elle se consacrait entièrement à lui et c'est surprenant compte tenu de toutes les aventures extra-conjugales qu'il a eues tout au long de sa carrière avec des prostituées et tout un tas d'autres femmes. Je ne pense pas qu'Al Capone ait jamais été fidèle à sa femme, mais elle est restée avec lui parce qu'elle l'aimait et elle s'est occupée de leur fils, malgré son handicap physique, car le pauvre enfant avait hérité à sa naissance de la syphilis de son père et de sa mère. Elle a été un pilier de cette famille. On ne sait pas grand-chose sur elle car elle était très discrète. Al voulait qu'elle demeure presque invisible et à l'écart de toutes les activités néfastes qu'il menait. Aucun livre n'a jamais été publié sur May. Rien, pas même un article à ma connaissance. Elle a vécu et elle est morte discrètement, sans faire de bruit. Mais elle n'a jamais abandonné Al.
Il a
Son mariage a été très solide. May Coughlin a accepté toutes ses infidélités. Al Capone a peut-être flirté, mais c'était uniquement dans le but d'assouvir son énorme appétit sexuel. Mais il n'y a jamais eu aucune autre femme qui était sa partenaire. Il aimait May. Et May l'aimait.
May, pour le coup... C'est un stabiliseur.
Hélène Arter, historienne, spécialiste de l'Amérique du Nord et autrice des Incorruptibles contre Al Capone.
D'ailleurs, dans les premières années du mariage, on a quand même l'impression qu'il a envie de se ranger. C'est le parcours type de l'homme jeune qui a flirté, voire a eu une action liée à la délinquance, qui se marie, qui a un enfant, qui a un métier... Bon, ça marche pas trop bien. Et puis finalement, d'un certain côté, la ville rattrape et il se rend compte que être du côté de la délinquance, ça paye mieux parce que c'est ça quand même le cœur de la question. Et assez vite, il va décider de suivre cette voie qui est quand même pour lui davantage celle de la réussite.
He originally wanted to be an accountant. I know this sounds incredible, but it's true. So he went with his young wife.
À l'origine, il voulait être comptable. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais c'est la vérité. Et donc, il a déménagé à Baltimore avec sa femme et son fils, et il a commencé une nouvelle vie. Il était très doué pour les chiffres, et il avait un sens inné des affaires. Il avait l'espoir de devenir un honnête homme d'affaires jusqu'à ce que la prohibition et Johnny Torrio ne le rappellent à Chicago. Johnny Torrio, qu'on surnomme quelquefois le cerveau, ou le renard, ou Johnny le Terrible, n'était pas vraiment connu du public. Et pourtant, il a été très influent. Il est considéré par beaucoup comme le plus intelligent de tous ces gangsters ou racketeurs, comme on les appelait à l'époque. Il avait la capacité de bâtir une organisation et de combler le vide que les forces de l'ordre avaient créé.
Johnny Torrio va être appelé en 1909 à Chicago parce que il a de la famille et que le grand parrain de Chicago, Big Jim Colosimo, d'origine calabraise, est le grand maître de la prostitution, mais il a un problème. Il se fait racketter. Alors Johnny Torrio monte, il tend un piège à ceux qui demandent l'argent, alors il va leur donner l'argent et quand ils arrivent, il les tue. Est-ce qu'il faut dire, d'un point de vue à mon avis psychologique, c'est que John Torrio incarne le père spirituel d'Al Capone. C'est-à-dire qu'en gros, il faut s'imaginer Al Capone vivant dans son taudis, parce qu'il a vécu dans un taudis, on en a déjà parlé, et grandir en même temps à côté de John Torrio à New York et voir quelqu'un d'autre de différent de son père. Parce que son père, c'est quelqu'un d'honnête. Donc, dans la mentalité du gangster, c'est celui qui courbe les chines face à la demande de raquettes, d'usure, des demandes administratives, du policier irlandais qui veut fermer son établissement. Et Torrio, lui, il court pas les chines. Lui, il va jusqu'à tuer s'il faut tuer. Et puis, lui, il veut réussir et gagner beaucoup d'argent. Donc, Al Capone, et avec Torrio, c'est le père qu'il a pas eu. Il va le suivre partout. D'abord dans le crime organisé à New York. Et puis, à nouveau dans le crime organisé à Chicago dans les années 20.
Welcome to Chicago. Well, this is my good friend Al Capone from a Five Point Gang in Brooklyn. He's gonna be my new bodyguard.
Oh, mamma mia! I've never seen so much money in my life.
You tell your mamma mia that nobody who is smart goes hungry in Chicago. It's a fat town.
Al Capone arrived in Chicago at a very opportune moment.
Paul Durica, directeur des expositions au Musée d'histoire de Chicago.
Al Capone est arrivé à Chicago à un moment très opportun pour lui. Il y a toujours eu le crime et le vice à Chicago. Depuis la création de la ville dans les années 1830 jusqu'au début de l'ère de la Prohibition en 1920, le vice, c'était principalement le jeu, la prostitution et diverses formes de raquettes. Il y avait donc déjà une activité criminelle conséquente, bien avant l'arrivée de Capone en 1919.
When Capone came to Chicago, the first job he was given by Johnny Torrio.
Lorsque Capone est arrivé à Chicago, le premier boulot que Johnny Torrio lui a confié a été dans une maison close de Burnham Way, au sud de Chicago. Son travail consistait à s'asseoir devant une porte comme celle-ci et à surveiller la rue pour voir si la police arrivait ou si des personnes suspectes s'approchaient. Il y avait toujours une sonnette pour avertir tout le monde que la police arrivait, ce qui permettait aux gens de s'enfuir par un système de tunnels sous le trottoir ici. Ce qui explique que quand la police faisait une descente, ils ne trouvaient jamais personne. Capone faisait le guet.
Come to raid these places and find nobody there. Capone was a lookout.
January 16th, Prohibition starts. That's the best thing that's ever happened to us. It's gonna make us rich. The big dough is gonna come from those thirsty slobs.
But then, when prohibition goes into effect,
l'entrée en vigueur de la prohibition en janvier 1920 a provoqué un bouleversement considérable. Soudain, l'opportunité de gagner beaucoup d'argent en s'engageant dans des activités illégales devient possible. Et Capone et d'autres avec lui se rendent compte très tôt de ce potentiel. Et les seuls obstacles qui se dressent sur son chemin, ce sont les figures de la pègre de Chicago déjà bien en place, notamment des gens comme Jim Colosimo.
Big Jim Colosimo was what they called a mustache Pete. Now what that means is that
Big Jim Colosimo était ce qu'on appelle un moustache Pete. Cela vient du fait que les vieux gangsters italiens qui débarquaient tout juste du bateau en provenance de Naples ou de Sicile portaient souvent la moustache et fonctionnaient à l'ancienne. Jim avait une femme, Victoria. Et ensemble, ils géraient trois maisons closes qui rapportaient beaucoup. Et tout d'un coup arrive la prohibition en 1920. Les Big Jim n'étaient pas du tout intéressés par l'argent qu'ils auraient pu gagner en vendant de l'alcool illégal et en le distribuant dans les nightclubs et les speakeasy à travers toute la ville. À partir de ce moment-là, son neveu, Johnny Torrio, a décidé que Big Jim était dépassé, qu'il était vieux jeu. Il devait partir. Et il a été assassiné le 1er mai 1920.
Al, my boy. Always glad to see you. Listen to that, eh? Such bel canto.
I just brought you a load of Canadian rye.
Fine, fine. Nothing but the best for Big Jim Colosimo, eh? Best girls, best food, drinks for the best people. What more can a man want, eh? The best of everything.
Si, si, si.
Excusez-moi, monsieur.
Monsieur Torrio, une question, s'il vous plaît. Monsieur Torrio.
Demande-lui qui est derrière le meurtre de Colosimo.
Monsieur Torrio, est-ce exact que la police vous a entendu pour le meurtre de Big Jim?
On était comme deux frères, Jim et moi.
Comme Cain et Abel?
Tu te crois futé, toi?
Fous-moi le camp, fous de merde.
Pourquoi a-t-il été tué, d'après vous?
Pour lui piquer son pognon, qu'est-ce que j'en sais?
Elle a été pris, d'après les flics.
Un peu de respect pour les morts, hein.
En quel terme étiez-vous avec la victime?
Jean-François Guéraud, dans cette notion de trafic d'alcool, on a aussi un facteur générationnel. On a l'impression que c'est un business un peu disruptif, si on peut utiliser le mot, à savoir c'est une jeune génération qui arrive au pouvoir et qui se lance dans une activité nouvelle.
Oui, c'est ça. Il y a un phénomène générationnel. Il y a des jeunes Turcs. Quand Big Jim Colosimo dirige la famille mafieuse à Chicago, il la dirige de 1902 à 1920, il fait son business uniquement sur les maisons closes, les bordels, la prostitution. C'est un super proxénète. Il a à ses côtés un homme qui vient de New York, qui a été le mentor d'Al Capone, c'est Johnny Torrio. Johnny Torrio lui dit, mais il y a le Vustel Act, on a là un nouveau marché criminel, il faut s'y investir. Et pour des raisons en fait, de confort et d'habitude, Big J. Colissimo se refuse à investir cette nouvelle vache à lait. Et c'est d'ailleurs ce qui va lui coûter la vie, puisque... il est établi que Johnny Torrio, donc son adjoint, va le faire assassiner, très certainement avec deux hommes de main, qui sont Frankie Yale et Al Capone.
Do not wait another moment for some work to do. Can't you hear that cry from near and far? Appealing to our manhood, asking you and me to close up the boot shop.
After 1 year from the ratification of this article, the manufacture, sale, or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States, and all territory subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes, is hereby prohibited.
La prohibition est une mesure très simple et d'une violence symbolique extrême, hein, puisque c'est l'interdiction de la consommation et de la production d'alcool aux États-Unis.
Romain Huré, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis.
C'est une mesure qui a été voulue par tout un groupe d'organisations et d'associations, de clubs, souvent composés de femmes, qui ont souhaité mettre un terme à ce qu'ils et elles percevaient, hein, comme étant une menace considérable pour la République des États-Unis, à savoir la consommation d'alcool et ses conséquences pour les familles. Elles avaient l'impression que l'alcool créait une violence familiale, intrafamiliale, on dirait aujourd'hui d'une violence extrême, et qu'il fallait moraliser le pays, et en particulier moraliser les millions d'immigrants, hein, qui arrivent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et cette arrivée massive crée des inquiétudes très fortes dans une partie de la population, notamment la population blanche protestante, hein, qui a peuplé le pays depuis le XVIIe siècle. Et cette population s'inquiète, notamment ces femmes, s'inquiète des dérives possibles et de la disparition de la République états-unienne.
Quel est l'accueil fait à cette nouvelle loi par les Américains?
L'accueil est plutôt favorable, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une série de mesures d'abord dans les États. Hein, et donc il y a des forces... hein, politiques, sociales, culturelles, qui soutiennent la prohibition. Ce que personne ne réalise alors, c'est que la mesure en pratique va être un échec considérable et qu'elle va au contraire alimenter des activités illicites, notamment chez ces nouveaux immigrants et ce qu'on commence à appeler la criminalité organisée, puisque la prohibition de l'alcool, hein, va créer un marché extrêmement lucratif pour ces immigrants, qui vont produire massivement et de manière très discrète, hein, de l'alcool de contrefaçon et qu'ils le vendront sous le manteau. Et ça va complètement alimenter un marché, hein, très structuré qui va permettre à ces immigrants et à la criminalité organisée de prospérer comme jamais. Donc c'est toute l'ironie de la mesure, hein, qui finalement va au contraire accélérer l'essor de la criminalité organisée et qui va faire sa fortune, hein, et la fortune de quelques gangsters célèbres, hein, qui vont parfaitement comprendre le marché qui est en train de naître aux États-Unis.
Les gens ne vont pas comprendre cette interdiction de boire de l'alcool. Voilà, entre parenthèses, il faut que je dise, c'est un problème de santé publique, il aurait fallu en faire quelque chose, une cause nationale de santé publique, mais pas l'interdire. Donc, les gens ne comprenant pas, non seulement ils vont continuer à boire, et pour plus cher. Mais en plus, ils vont tous participer à la fabrication d'alcool. Car en gros, ce qui va se passer, c'est que on boit essentiellement de la bière et du whisky, pour faire très simple. La bière, on va la fabriquer artisanalement. Le whisky, on va l'importer, ou y compris fabriquer une espèce de copie de whisky dégueulasse, mais il faudra les matières premières, et tout le monde va participer à ça. Il va y avoir des alambics partout. C'est ça dont on se rend pas compte. C'est que même les gens honnêtes vont se mettre à faire des alambics pour distribuer un peu d'alcool. Ça va être le début. Après, les criminels professionnels, les gangs italo-américains et irlandais, vont mettre fin aux alambics citoyens, si je puis me permettre, pour créer des grands cartels de production. Ça va aussi alimenter une énorme corruption. C'est-à-dire que là, déjà que la police n'était pas bien honnête, notamment les Irlandais dans les quartiers populaires, là, ça va être terrible. C'est-à-dire que Irlandais et Italiens, et mafia juive aussi, chacun va avoir son policier référent. C'est-à-dire que les policiers vont devenir vraiment les auxiliaires du crime organisé. Les policiers ne comprenant pas non plus l'interdiction de l'alcool. Ils boivent eux-mêmes, ou même s'ils ne sont pas alcooliques, ils ne comprennent pas. Donc, je te ferme ton bordel, et donc la mafia italo-américaine a son policier qui va venir faire le contrôle et fermer le bordel de l'Irlandais. Le gang irlandais, en retour, va avoir, lui, le shérif comme complice, va faire fermer le bar clandestin de la mafia italo-américaine. Vous imaginez à quel point les forces de l'ordre, qui n'étaient pas déjà crédibles auprès de ces populations parce qu'elles ne faisaient pas leur travail, là, elles ne peuvent plus être crédibles, elles sont les instruments du crime organisé. Ça, c'est terrible. Et enfin, du point de vue culturel, ce qui est génial, c'est que tous ces citoyens qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle les speakeasy, parce que l'alcool désinhibe, dans des caves, j'exagère un peu, donc avec la fumée aussi, de la cigarette, etc., ils vont se retrouver tous ensemble, ils vont créer une communauté de défiance envers l'État fédéral, complètement fou d'avoir interdit la consommation d'alcool. Et on va avoir ici un brassage de populations fait d'ouvriers, même s'il devait y avoir une hiérarchie dans les speakeasy, mais malgré tout, un brassage où simples citoyens, ouvriers, professions libérales, experts comptables, banquiers, juges, policiers, prostituées, vont se retrouver tous ensemble à boire des coups et à dire « fuck l'État fédéral ». Et ça, c'est, je crois, l'acte de naissance de fascination des gangsters de la part du peuple italo-américain qu'on va retrouver dans Hollywood. Parce que même si parfois ils vont se rebeller en disant « c'est trop », la violence à Chicago, à la fin, vous avez une production hollywoodienne qui montre que finalement, le gangster, c'est bien. Mais c'est né de cette interdiction que les citoyens n'ont pas compris.
Most people just move their drinking underground.
Extrait de film du Mob Museum à Las Vegas.
La plupart des gens ont continué à boire de façon clandestine. Pour les hommes des rues malfamées des ghettos du pays, c'était l'occasion d'une vie. Les gangsters sont devenus des contrebandiers d'alcool, les inconnus sont devenus des truands, les boss sont devenus riches et puissants et se sont mis à fréquenter la haute société. Chicago a été la ville qui défia le plus les lois de la prohibition. Elle est devenue la capitale nationale de la mafia. L'Amérique n'était plus qu'un vaste bar clandestin et c'était la pègre qui fournissait l'alcool.
If you wanted a drink in the 1920s and in Chicago, you had a lot of options.
Dans les années 20, si vous vouliez boire un verre à Chicago, plusieurs options s'offraient à vous. Le genre d'endroit où vous pouviez aller prendre un verre dépendait de qui vous étiez et de qui vous fréquentiez dans la ville. Si vous étiez une personne ordinaire vivant dans l'un des nombreux quartiers populaires de Chicago, il est fort probable que vous ayez pu continuer à fréquenter le même bar qu'avant la prohibition. Il pouvait s'agir d'un glacier, d'un bar à soda, mais il y avait toujours une petite arrière-salle où on pouvait prendre un verre. Dans bien des cas, il s'agissait simplement d'un saloon qui était resté un saloon, mais dont les rideaux étaient tirés et les portes fermées, sauf pour ceux qui étaient connus des propriétaires. Et quelquefois, vous n'aviez même pas à sortir de votre immeuble. On parle beaucoup des bars clandestins, des speakeasy de cette époque, mais la plupart des gens se rendaient dans ce qu'on appelait des beer flats, des brasseries d'appartement, car votre voisin fabriquait de la bière ou peut-être distillait de l'alcool chez lui, puis il vous le vendait. Des milliers de personnes participaient à cette industrie. En fait, ces beer flats étaient beaucoup plus courants que les speakeasy, ces bars clandestins qui existent dans notre imaginaire et dans la culture populaire, et qui sont plus ou moins des cabarets, des boîtes de nuit revisitées, mais qui existaient aussi, bien entendu. On trouvait ces speakeasy en particulier dans le Loop de Chicago, le quartier des affaires du centre-ville. Ils étaient un peu plus sophistiqués. Et enfin, si vous étiez une personne qui avait les moyens, vous pouviez toujours aller dans un club privé. Il y a toujours eu, même avant l'ère de la prohibition, de nombreux clubs privés pour les hommes et les femmes de Chicago, des personnes influentes. Lorsque la prohibition est entrée en vigueur, ils se sont simplement mis à boire en privé. Donc finalement, on trouvait plein d'endroits où boire un verre dans les années 20 dans la ville.
The speakeasy we're going to go to is called Room 13.
Ellie Newell, artiste de Chicago et spécialiste des speakeasy.
It's really thought to be a Capone.
Le speakeasy où nous allons nous rendre s'appelle la chambre 13. C'est vraiment pensé comme un speakeasy représentatif de l'époque de Capone. C'est assez petit. À l'époque de la prohibition, on disait que pour ouvrir un speakeasy, il suffisait d'avoir deux bouteilles et une pièce. En réalité, il n'y avait pas deux speakeasy identiques. En général, il fallait un mot de passe pour entrer. Et il arrivait souvent que des représentants des forces de l'ordre fréquentent également ces établissements, généralement en dehors de leur service et sans uniforme. On entend souvent parler des fameuses lumières rouges. Ces établissements avaient des signaux et des codes. Ils utilisaient des dictons ou des phrases qui signifiaient que la police arrivait. Très souvent, il y avait un passage secret, une bibliothèque ou une trappe, un sas caché, que quelqu'un pouvait ouvrir et qui permettait de se cacher et de s'échapper.
Personnellement, je me suis toujours demandé quel goût pouvait bien avoir la bière ou les alcools produits pendant la prohibition. Et ma conclusion est que ça devait être horrible la plupart du temps, parce qu'on utilisait uniquement les ingrédients qu'on pouvait se procurer. Et en plus, on n'utilisait pas les mêmes techniques pour produire ces boissons. On pouvait donc s'attendre à ce que la saveur ne soit pas la même. Je dirais aussi qu'à cette époque, on assiste à l'émergence et à la création des cocktails, essentiellement pour masquer le goût de l'alcool.
And that's basically as a way to kind of mask the taste of some of the booze.
Une autre façon de continuer à consommer des boissons alcoolisées pendant la prohibition, c'était de tout à coup trouver la foi et devenir croyant, car la production des vins de messe et des vins rituels était toujours autorisée. Et il est curieux de constater que de nombreux rabbins se sont mis à apparaître à Chicago et dans des villes comme New York. Des rabbins avec des noms à consonance irlandaise ou italienne, très peu traditionnels. En ce qui concerne la ville de Chicago, au moment de l'entrée en vigueur de la prohibition, c'était la seconde ville du pays. Elle possédait de très solides infrastructures capables de soutenir ce genre d'activité illégale. Pour commencer, il y avait une industrie de fabrication de la bière qui était conséquente et bien implantée avant même la prohibition. On comptait environ 60 brasseries en activité avant l'entrée en application de la prohibition. Et elles existaient toujours. Les anciens ouvriers de ces brasseries habitaient toujours la ville. Par conséquent, il y avait encore cette capacité potentielle de produire de la bière. Deuxièmement, la ville de Chicago est entourée d'un solide réseau de transport. Je parle ici des lignes de chemin de fer, mais aussi des routes. En 1920, l'État de l'Illinois est devenu un leader dans le pavage des autoroutes. Je parle également des voies navigables. Chicago borde le lac Michigan, ce qui lui donne accès au Grand Lac. Il y a aussi le canal Illinois-Michigan qui relie le lac au fleuve Mississippi. En d'autres termes, il est très facile de faire entrer et sortir des marchandises de la ville. Et si vous voulez faire circuler de l'alcool illégal et de la bière, vous disposez des réseaux nécessaires pour le faire. Enfin, la ville étant située sur les Grands Lacs, nous ne sommes pas très éloignés de notre voisin du Nord, le Canada, où il était encore parfaitement légal de fabriquer des produits tels que le whisky, que vous pouviez donc parfaitement transporter par bateau du Canada via les Grands Lacs, en passant par Détroit, par exemple, pour ensuite le faire acheminer à Chicago. Tout est donc une question d'emplacement. C'est la même chose qui a contribué à la croissance de la ville de Chicago et à sa prospérité, qui va permettre au commerce illégal de prospérer et au crime de s'organiser.
Oh.
en 1926.
Archivina.
Alors que la prohibition marchait déjà très très fort, puisqu'elle avait débuté en 1920.
À tout cœur, 1984.
Le père d'Henri Morazet lui avait dit, eh bien, écoute, il faut aussi aller voir sur place aux États-Unis, au Canada, il faut aller démarcher. Et il y a quelque temps, deux hommes sont venus à Saint-Pierre, je les ai reçus. L'un s'appelle Johnny Torrio, et il y avait son jeune frère. Et ce serait souhaitable, il serait souhaitable que tu ailles les rencontrer pour, justement, vendre un petit peu plus d'alcool. Et un beau jour, donc, le jeune Henri Morazet, qui à l'époque avait tout juste 20 ans, part en bateau jusqu'au Canada. De là, il rejoint Halifax, il prend un train qui va le conduire à Chicago au terme d'une vingtaine d'heures de voyage, avec de nombreux arrêts dans des petites gares, des changements de train. Il parvient à leur indiquer sur le bout de papier. C'était rencontre à 21h. Dans un restaurant, hôtel, à côté de Chicago, qui s'appelait Letwood Inn. Et là, tu vas rencontrer Monsieur Torrio. Et c'est tout. Les seules indications, il faut que tu lui vendes un maximum d'alcool. Il arrive et il demande, je voudrais voir Monsieur Torrio, mon père a pris contact avec vous. Et là, première surprise, le barman le regarde, lui dit, il n'y a jamais eu de Monsieur Torrio ici, vous faites erreur. Morazet lui dit, vous rigolez, moi, ça fait deux jours que je voyage entre le bateau, le train et tous les problèmes qui sont posés au cours du voyage. Écoutez, mon père a rencontré il y a de cela deux mois deux hommes. L'un s'appelait Johnny Torrio, il y avait son jeune frère. On lui demande comment était le jeune frère. Oh, c'était quelqu'un d'une taille moyenne, plutôt brun. Et je me souviens bien, il y avait un signe que j'avais noté à l'époque, il était balafré. À ce moment-là, le barman lui dit, ne bougez pas, attendez. Monte, redescend un quart d'heure après et le conduit devant un homme. Morazet dit, bah, Monsieur Torrio, je suis content. Et à ce moment-là, cet homme lui dit, mais je ne suis pas Monsieur Torrio, je suis Al Capone. Et effectivement, ça avait été une confusion extraordinaire qui avait permis au jeune Morazet de se rendre à Chicago sans savoir qui il allait rencontrer, car à l'époque, Al Capone, plus connu d'ailleurs sous le nom d'Al Brown, se faisait souvent passer pour le frère de Johnny Torrio, qui a été le véritable premier parrain de la mafia de Chicago. Et Morazet, lorsque je l'ai rencontré, m'a dit, si j'avais su que je devais rencontrer Al Capone à Chicago, je ne serais certainement pas parti, car déjà, à cette époque-là, Al Capone avait de nombreux meurtres et avait déjà beaucoup de sang sur les mains.
Where you see this building, that is where Al Capone opened up his business front.
Alors, vous voyez cet immeuble ? C'est là qu'Al Capone a ouvert son commerce. Il se faisait appeler Al Brown. Et le nom de la boutique, c'était Meubles et Antiquités Brown. Il était censé vendre des meubles, mais en fait, ce n'était qu'une couverture. Ce n'était pas un commerce. Et c'était là, au 2220 South Wabash. Ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est que c'est juste un peu plus au sud d'ici que Capone a commis le seul crime qui lui était réellement attribué, dans le Jaime Jacob Saloon. En 1921, il a tué un type qu'on appelait Ragtime Joe Howard, et qui était un personnage qui avait une grande gueule.
L'un des premiers homicides documentés dans lequel il a été impliqué résulte du fait qu'il avait pris la défense de l'un des associés de sa bande, Jake Guzik, parce qu'il avait été roué de coups par quelqu'un. Et Capone est allé affronter le gars qui avait fait ça, Joe Howard. Et Joe Howard a commis la terrible erreur de le traiter de proxénète, ce qui était exact, mais qui n'était pas quelque chose de très gentil à dire en face de Capone. Il lui a collé un pistolet sur la figure et lui a tiré 5 ou 6 balles dans la tête, perdant complètement le contrôle de ses nerfs, ce qui est une caractéristique de sa personnalité. Mais en même temps, il a démontré ce qui lui a permis de gravir les échelons. Il n'était pas seulement impitoyable, il était prêt à recourir à la violence pour se défendre et défendre les siens. Et si les autres membres du gang avaient la certitude qu'il était prêt à faire ça pour Jake Guzik, ils pouvaient être sûrs qu'il le ferait pour eux. Et ça leur donnait également une idée assez claire de ce qu'il était prêt à faire si l'on avait le malheur de le contrarier.
The people who were in the saloon
Les gens qui se trouvaient dans le saloon ont soudain été frappés d'amnésie quand la police de Chicago a débarqué et les a interrogés. Non, ils n'avaient rien vu. Non, ils étaient justement dans l'arrière-salle. Ils avaient tout raté. Ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était produit. Et c'est ainsi que Capone n'a jamais été poursuivi. Et c'est le seul meurtre qu'il ait commis qu'on puisse lui attribuer directement.
On voit bien que ce crime organisé, à ce moment des années 1920, est un crime organisé structuré, avec, comme dans le monde de l'entreprise, des fonctions, des chefs. Chacun est affecté en fonction de ses compétences. Et Capone, voilà, c'est le gros bras. En plus, il a une cicatrice, donc il a un côté un peu patibulaire qui va, rien qu'en le voyant, effrayer celles et ceux qui doivent de l'argent. Donc, il est vraiment dans ce rôle du donneur d'ordre, hein, d'une certaine manière. Et à ce moment des débuts de Capone, Capone n'est qu'un exécutant. Mais il va apprendre très vite. Il a aussi des qualités qui font qu'il va sortir du lot, se faire remarquer et qu'on va lui donner au fur et à mesure de plus en plus de responsabilités.
Capone s'est très rapidement fait un nom en tant que jeune chef riche et prometteur de cette organisation à Chicago. Il y en avait d'autres, bien sûr, et c'était des rivaux. Mais à l'âge de 23, 24, 25 ans, il était peut-être l'une des personnes les plus puissantes et les plus riches de Chicago.
We're moving, Al. What? We're getting out.
What are you talking about?
The new mayor.
What, Mayor Devlin? Just like all the rest, he talks reform, he does nothing, so what?
He also talks turkey, Al. He up Schaefer, the captain. He's head of a new squad, special squad, to put the syndicate out of Chicago.
Listen, before they can run us out of Chicago, you gotta get rid of City Hall. What's with the cop and the mayor, for goodness sake?
Al, he's the reform mayor, and he means it.
I don't care what he means. What he reforms, that means we're quitting.
Who's quitting what? We're moving, that's all, until Big Bill Thompson gets back in office.
Where are we going? Is this wrong?
Yeah.
In 1923, Al Capone shifted the operation in Chicago.
En 1923, Al Capone a transféré ses activités de Chicago à Cicero pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'un nouveau maire a été élu en 1923. Il s'appelait William Emmett Deaver. C'était un démocrate dissident qui s'était engagé à faire respecter la loi de la prohibition à Chicago. Deaver est arrivé et a déclaré « Je vais chasser les gangs de Chicago et je vais rétablir l'ordre et la loi ». Le gang de Capone s'est donc installé à Cicero à l'invitation du maire Clina, ou plutôt du président Clina. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, Cicero avait un président et non un maire, ce qui illustre bien le chaos qui régnait à Cicero. Cicero était alors une « wide open town », ce qui signifie que la ville était dépourvue de lois. Donc le gang de Capone s'est emparé de toutes les activités. Ils ont ouvert des boîtes de nuit, des speakeasy, des tripots et des maisons closes. Ils ont transformé Cicero en un lieu honky-tonk. C'est le mot qu'on emploie pour désigner un lieu de divertissement réservé à un public adulte ouvert 24 heures sur 24 sans interruption. Mais le jour de l'élection municipale à Cicero, en 1924, son frère Frank Capone a été assassiné alors qu'il surveillait des bureaux de vote. Il surveillait les élections et s'assurait que tout le monde votait bien pour Clina et ses adjoints et contre les réformateurs qui essayaient de nettoyer Cicero de toute sa corruption. Il y a eu une bagarre et une fusillade a éclaté. Frank Capone a été abattu au coin de la 22e et de Cicero Avenue. Et sa veillée funèbre s'est déroulée dans la maison familiale, au 7244 South Prairie Avenue. Ainsi, Cicero et les Capone étaient liés par des liens étroits.
Cicero et les Capone étaient liés arm in arm.
L'autre élément qui lui a permis de s'élever a été ce conflit permanent qu'on a appelé plus tard les guerres de la bière. L'organisation de Torrio, au sud, se heurtait avec l'organisation initialement dirigée par Dean O'Bannion, au nord, et d'autres gangs qui faisaient de la contrebande d'alcool à l'ouest et au sud. Mais dans ce type de conflit, les gens au sommet de ces organisations étaient les cibles principales et ils se faisaient descendre les uns après les autres pour employer le vocabulaire adéquat du milieu.
Et puis, les guerres de la bière ont éclaté. Johnny Torrio, parce qu'il était le patron, était une cible prioritaire. D'après ce qu'on lit sur lui, tout indique qu'il était un homme calme et posé, mais avec lequel il fallait compter. C'était quelqu'un d'assez casanier et fidèle à sa femme, qui ne s'intéressait pas du tout aux femmes, contrairement à Al Capone. Il rentrait donc des courses avec sa femme en portant des paquets. Il n'avait pas de revolver sur lui. Et on lui a tiré dessus alors qu'il rentrait dans son immeuble. Il a été descendu par Bugs Moran et les hommes du Northside. Il se vidait de son sang sur le trottoir quand Bugs Moran s'est approché pour lui administrer le coup de grâce. Son revolver s'est enrayé. Johnny Torrio a survécu à l'attaque. Il a passé des semaines à l'hôpital et là, il a pris sa décision. J'ai la quarantaine. Je n'ai pas le cran pour faire face à cette violence. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère m'arrêter là.
Capone est au bon endroit, au bon moment. Quand Torrio dit « je préfère me retirer parce que tout ça devient trop dangereux », Capone devient l'homme de la situation et c'est à lui qu'il passe la main.
Alors qu'on pourrait imaginer Al Capone vivant la Dolce Vita, dans le prochain épisode, une sanglante guerre des gangs va éclater à Chicago. Un conflit meurtrier où les gangs vont se rendre coup pour le contrôle du juteux trafic d'alcool. Déchaînant une violence inouïe dans les rues de la ville, ce qui fera dire dans le reste du pays qu'à chaque fois qu'on va à Chicago, on risque sa vie. Mais cette violence ne fait pas peur à Capone. Et dans ce conflit où tous les coups sont permis, Al va se dépasser et faire preuve de beaucoup d'imagination, allant jusqu'à offrir à ses ennemis une Saint-Valentin inoubliable. C'était Al Capone, roi des gangsters. Épisode 2, premier pas dans le crime. Avec Laurence Bergreen, Clotilde Champérache, Paul Durica, Jean-François Guéraud, Hélène Arter, Romain Huret, Wayne Johnson, Richard Lindbergh, Arthur Lorigio, Ellie Newell, Fabrice Risoli, Brad Schwartz. Avec les voix de Daniel Delabesse, Thierry Beauchamp, Éric Charon, Olivier Martineau, Philippe Girard, Yann de Monterneau et Claude-Bernard Perrault. Traduction, Abigail Boucher, Parc Crozen et Laurence Jamet. Archivina, Ingrid Lecointe. Extrait des films Al Capone et l'affaire Al Capone et extrait de la série Boardwalk Empire. Documentation musicale, Antoine Vuoz. Prise de son extérieur, Martin Troadec. Prise de son studio, Bastien Varigo, Lucas Finet, Marie Le Peintre, Mathieu Leroux, Alison Ascrisi, Guillaume Ledu, Valérie Lavalard et Claire Levasseur. Mixage, Jason Taous. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Federico Polo Devoto, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.